mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas les inventions de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Bonjour à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui en studio, je suis toujours avec Lucille.
Bonjour.
Et Anne-Sophie.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler surtout et pas mal football. Et oui, alors bon, c'est pas trop à voir avec l'actualité qui effectivement ne parle pas mal que d'Euro 2016. C'est en fait une nouvelle collaboration qu'on a envie de mettre en place avec une émission qui s'appelle Des bâtons dans Guirou et qui a lieu du côté du sud de la France, à Marseille, et qui est diffusée sur deux radios copines de Canal B que sont Radio Grenouille et Radio Galère. Voilà, et donc du coup, aujourd'hui, on va retrouver Manu qui est un des animateurs de l'émission Des bâtons dans Guirou et qui nous parlera donc de ce qu'il raconte dans l'émission, parce qu'il ne parle pas que de football. Et on retrouvera aussi Anne-Sophie qui nous contera des choses sur la galette qu'on mange. Voilà.
Alaikum.
Bonjour.
Kakdilea.
Gamar Joba. Kalbamu.
Alors, retrouvons tout de suite Manu qui a été interviewé par Anne-Claire pour justement donc nous parler de son émission Des bâtons dans Guirou.
C'est toi.
Donc, tu veux que je te dise ?
Je veux que tu me parles des bâtons dans Guirou.
Alors, Des bâtons dans Guirou, c'est une émission que nous avons commencé il y a 4 ans sur une radio associative marseillaise qui s'appelle Radio Galère, diffusé sur 88.4 à Marseille. Et c'est une bande de copains qui s'est dit à un moment on aime bien le foot, on aime bien jouer au foot ensemble, mais on a de plus en plus de mal à regarder le foot à la télé, à l'écouter à la radio, à écouter tout ce blabla un peu débile qu'il y a autour du foot tout le temps. Et on s'est dit que nous, on pouvait peut-être imaginer une autre manière de parler du football. Et on a eu la chance de rentrer dans cette radio galère grâce à un copain qui avait déjà une émission, qui nous a proposé de faire un essai. Donc on a utilisé son créneau pour un peu expérimenter notre principe. Et donc, cette petite bande de copains, on était 5 au départ, on a monté une émission sur le foot, donc Des bâtons dans Guirou, mais qui en fait se sert du foot pour parler de tout un tas d'autres choses. Que ce soit des sujets culturels pour la plupart, du cinéma, des livres, du théâtre quelquefois, des arts plastiques, de l'architecture, mais que ce soit aussi des disciplines un peu plus complexes, entre guillemets, enfin pas plus complexes, mais plus inattendu en parlant de football. Ça va être de la sociologie, ça va être de la géographie, de l'histoire, des sciences parfois, ou de la technique, voilà. Tout un tas d'autres choses qui ont toutes comme point de départ un petit lien, même minime, avec le football. Et nous, on s'est dit qu'on avait envie de parler de ça pendant qu'on parlait aussi d'un match de foot qui avait lieu. Donc on commente un match de foot de temps en temps pendant l'émission, et puis le plus souvent, eh bien, quand le match nous ennuie, on parle d'autre chose. Voilà.
Et est-ce que tu peux nous expliquer comment vous est venu ce nom Des bâtons dans Guirou ?
Alors, Des bâtons dans Guirou, d'abord, dans Des bâtons dans Guirou, il y a Guirou, qui est un personnage un peu connu du football, on va dire, des années 80-90, qui était l'entraîneur de l'équipe d'Auxerre, qui est Auxerre, c'est une petite ville de Bourgogne, mais qui a réussi à avoir quelques heures de gloire dans ces années-là, en première division et même en Coupe d'Europe. Et c'est un personnage qui est devenu important médiatiquement. Il avait même sa marionnette au guignol à une époque, donc c'était quelqu'un de très connu. Et quelqu'un aussi qui nous, à la fois nous amusait et puis nous horripilait, parce qu'il avait quelques positions politiques ou quelques engagements un peu douteux, selon nous. Donc à la fois il nous faisait un peu rigoler, puis à la fois on l'aimait pas trop. Et on s'est dit qu'il nous fallait un jeu de mots. Et donc on s'est dit, à partir de, l'expression des bâtons dans les roues, avec le verbe débattre, puisque nous on avait envie de débattre sur le football, donc c'est devenu des bâtons dans Guy Roux, des, plus loin bâton, plus loin dans, plus loin Guy, plus loin roux. Voilà l'explication de ce titre.
Parce que du coup, des bâtons dans les roues, ça veut dire quoi ?
Alors, des bâtons dans les roues, on se dit, quand on a un projet, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, c'est quelqu'un qui va nous empêcher de mener à bien ce projet. Littéralement, on y met des bâtons dans les roues de notre vélo, par exemple, et notre vélo n'avance plus. Et voilà, et des bâtons dans Guy Roux, c'est un peu une manière de mettre des bâtons dans l'engrenage du football tel qu'on nous le présente tous les jours à la télévision et à la radio ou dans les journaux, et d'en parler autrement, différemment, selon nous, de manière plus intéressante et plus drôle. Après, on n'y arrive pas forcément toujours, mais en tout cas, nous, on s'amuse beaucoup et on a l'impression d'être plus intéressant.
Et du coup, cette émission, elle est hebdomadaire ou mensuelle ou...
Alors cette émission, depuis sa création, elle avait lieu deux fois par mois, donc elle est bimensuelle. Le deuxième et le quatrième lundi du mois à 21h30 jusqu'à 23h, donc ça dure 1h30 comme le temps d'un match de foot. Et puis depuis un an, on a aussi un prolongement, on va dire, de ça, puisqu'il y a une autre radio marseillaise qui s'appelle Radio Grenouille, avec qui on a réussi à s'entendre pour aussi faire cette émission. Donc on a une troisième émission dans le mois, qui est le premier dimanche à 17h, qui est la même émission, mais qui en fait est un troisième numéro mensuel, quoi.
Et alors, est-ce que c'est toujours la même équipe qui participe, ou est-ce que vous avez par exemple des invités ?
Alors nous, on est maintenant, on est 6 à faire partie de ce qu'on appelle le dispositif des bâtons dans Guy Roux. On est 6 avec des rôles un peu différents. Il y a des spécialistes ou des faux spécialistes de différents domaines. Il y a par exemple quelqu'un qui s'occupe du commentaire des matchs. Il y a quelqu'un qui s'occupe de faire des chroniques un peu plus de géographie, d'histoire, de politique. Il y a quelqu'un qui est plus, on va dire, intéressé par... par la science-fiction, par exemple. Bon, bref, chacun a un petit peu sa spécialité parmi nous six. Et puis, à chaque fois, à chaque émission, on essaye d'avoir un invité qui va correspondre au thème dont on avait envie de parler. Si tu veux des exemples, Anne-Claire, je peux t'en donner. Cette année, on a eu, par exemple, pour la première émission de l'année, une cartomancienne. C'est-à-dire une femme qui tire les cartes pour deviner l'avenir. Et à qui on a posé des questions pour savoir ce qui allait se passer dans cette saison de football, cette nouvelle saison de football. Et puis à la fin de l'année, on vérifiera si les réponses qu'elle nous a données avec ce jeu de tarot correspondent à la réalité ou pas. On a eu aussi un anthropologue qui est spécialiste du football, qui a été spécialiste du football, et puis dernièrement s'est beaucoup intéressé au poil, un autre sujet un peu rigolo. Donc on a fait une spéciale foot et poil. Et avec lui comme invité, et c'était très intéressant d'analyser les coiffures des joueurs de foot, la manière dont ils se rasaient, ce que ça voulait dire, tout ça, et voilà, par exemple, comme invité.
Et alors, pour finir, Manu, puisque nous sommes à Marseille, je ne peux m'empêcher de te demander, quid de l'OM ? Qu'en est-il ? Qu'en penses-tu ?
Ben, moi, je ne suis pas marseillais d'origine, je suis nantais. Alors, si je reste un peu supporter de football, c'est plutôt le FC Nantes qui m'intéresse. Mais quand on vit à Marseille, c'est difficile d'échapper à la ferveur autour de l'OM. Donc, on s'y intéresse quand même un peu. On est quand même un peu enthousiasmé quand l'OM gagne, quand il se passe des choses autour de ça. Parce que tous les gens ici sont quand même très impliqués dans ce club. C'est vraiment important pour les gens de la ville. Et cette année, ça s'est très mal passé. Alors, les gens étaient plutôt très en colère. Les supporters ont fait la grève, les supporters ont réclamé la démission de l'entraîneur, du président, etc. Mais il peut arriver que des années ça se passe très bien, et là, c'est plutôt la fête. Et donc voilà, cette année c'était quand même pas jojo. À la fois, ils n'ont pas beaucoup gagné, et à la fois ils jouaient vraiment pas bien, donc on s'ennuyait ferme. Mais Mais c'est une ville, Marseille, qui est assez étonnante pour ça, pour la place que prend le foot et ce club de l'OM dans la vie des gens. C'est quand même particulier, je crois, même pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au foot, ça, c'est assez marquant.
Oui, juste pour précision, pour les Bretons qui nous écoutent, l'OM, c'est l'Olympique de Marseille.
L'Olympique de Marseille, tout à fait. Selon les Marseillais, le plus grand club de foot qui n'ait jamais existé en France et même au-delà. Et selon les Nantais, c'est pas si vrai que ça.
Merci beaucoup, Manu.
À bientôt. Je me rappelle plus du nom de l'émission.
C'était mercredi.
Ah, à bientôt. C'était mercredi.
Et oui, Manu, à bientôt, c'était mercredi. Eh bien, voilà, maintenant, on en sait plus sur des bâtons d'Anguirou et ce qu'ils veulent raconter aussi dans l'émission. Donc, comme on a pu le voir, ils parlent un petit peu de tout autour du football, donc pas que du football. Et ce sera avec plaisir qu'on pourra entendre certains reportages qui passeront sur Radio Grenouille. Là, justement, on va entendre donc une interview qu'a menée Manu avec son neveu Sacha, qui va nous conter un match, je pense, assez important. Je ne sais pas si vous regardez le foot, les filles.
Non. Et pas vraiment, trop. En fait, ça va être une découverte.
Une découverte. Et là, ce sont donc, c'est un report du match Nantes contre Laval. Donc, deux très belles équipes, hein, je pense qu'on peut le dire. Et Sacha est plutôt fan des Canaries, aka les Nantais.
Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, dactylo, reconverti.
Guitare héros.
Soulageur de démangeaisons guitaristiques, à sticker de manche.
Pompeur de rythmique.
On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y'a pas un radar qui peut flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur,
névrotique.
Joyeux jazzeux, on voyage sur le riff.
On rêve de bohème, de route, de Romain Michel. Mais en fait, on s'appelle Romain Michel.
Coucou, je suis Sacha, je suis reporter du match Nantes-Laval. J'ai 7 ans, j'habite dans l'Hérault, à Saint-Pons-de-Thomières, et je suis en CE1. Et puis, je fais du football dans la vie, dans un club dans le Tarn, Saint-Amand-Soult. Je joue milieu offensif.
Tu marques des buts des fois ?
Oui, ou 3 par match. Des fois, je change un petit peu. Ouais, des fois il y a des changements de place dans le même match. Mon équipe préférée, c'est Nantes, parce que mon papa a toujours vécu à Nantes. Et puis il est grand supporter de Nantes. Et puis moi, je le suis un petit peu, alors j'adore Nantes, comme lui.
Mais pourtant, t'habites plus près de Montpellier.
Oui, et de Toulouse aussi. Je les aime pas trop. La couille de la ligue. On allait voir Nantes-Laval à la Beaujoire. Avec mon papa et mon tonton. Mon tonton il est un petit peu arrivé en retard et puis moi et mon papa on est arrivé à temps. C'est 4-0 pour Nantes. Premier but signé Schetcher, 4e de minute de jeu, déjà un but du Israélien. Maintenant, Nantes est rentré dans le match grâce au magnifique centre de Bamou en profondeur pour Schetcher. Vincent Bessard, 58e de minute, un centre arraché de Jules Iloki qui arrive à trouver Vincent Bessard dans la surface de réparation pour que Vincent Bessard mette un beau pied droit au fond des filets. Bangoura, 67e de minute, pour un centre repoussé pour la défense lavalloise qui arrive à Bangoura dans le coin de la surface de réparation pour un magnifique but de Bangoura. Schitter, 90e de minute, avec un contre nantais d'Aristigueta qui trouve Schitter de l'autre côté qui revient dans l'arc. Une frappe à l'entrée de la surface de réparation dans le petit filet. Il y a eu des buts, il y a eu plein d'actions. Il y a eu du vrai match. Oui, beaucoup ouais. D'ambiance. C'était ouais, allez, Nantes. Il y a des super bons joueurs qui ont marqué des buts pour Nantes, mais il y en a des super bons aussi qui n'ont pas marqué. Bamou, environ Aristide Gita, qui aurait pu en marquer un. Au revoir à tous et rendez-vous pour le prochain match.
T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche, un tango qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche, un tango qui...
Eh bien, merci beaucoup à Manu et à Sacha, son neveu qui nous a fait un bon report du match. Je pense que tout le monde a bien compris les actions, les buts. Souvent, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas assez de buts au football. On arrive pas très souvent à des scores explosifs du style 14 à 15 et c'est vrai que généralement, ça peut faire des matchs assez ennuyeux. Mais là, heureusement, le report de Sacha était palpitant. Retrouvons tout de suite la recette des crêpes par Anne-Sophie. L'origine des galettes par Anne-Sophie.
Si tu veux la recette pour faire des crêpes, il faut écouter mercredi.
Alors, ce week-end, j'ai fait des galettes. Je me suis régalée, bien sûr, mais je me suis aussi demandé d'où venaient ces petits ronds si familiers. Vous êtes déjà posé la question, vous ?
En fait, je me suis déjà posé la question parce que dans chaque pays, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui se fait avec de la farine et de l'eau qui s'étend. Et qui prend la forme d'une galette, d'un chapati, d'un tortilla, enfin voilà, ou d'une pita. Et du coup, j'ai l'impression que dans chaque pays, il y a des pains ronds qui existent.
Ouais, c'est pas faux. Alors, du coup, moi, je ne savais pas d'où ça venait, donc j'ai cherché un petit peu. Et en fait, j'ai trouvé des choses assez étonnantes. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, le sarrasin ne venait pas du tout de Bretagne et qu'il fallait parcourir des milliers de kilomètres pour découvrir des champs de magnifiques fleurs blanches et roses qui s'étendent à perte de vue. Et ces champs, c'est en Asie qu'on les trouve, en Chine plus précisément, ou en Orient, comme on le disait avant. Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme farine de sarrasin, qui veut dire farine d'Orient, farine des Orientaux ou farine qui vient de l'Est. Voilà. Alors, comment ça se cultivait, le sarrasin ? Donc ça se cultivait une fois par an, et c'est là que cette plante tire son nom, puisqu'on l'appelle la plante des 100 jours. Donc il faut attendre 100 jours pour récupérer les graines de sarrasin. Alors ces petites graines peuvent être utilisées de manière très différente, elles sont de couleur marron, c'est ce qui donne cette couleur brune aux galettes qu'on connaît. Donc on peut les moudre, ça fait de la farine qu'on utilise plus tard pour faire des galettes, ou du pain à la farine de sarrasin, ça existe aussi. Et on peut aussi les manger de manière différente, on peut les faire bouillir comme du riz par exemple, et c'est comme ça que les mangent les Coréens ou les Japonais. Voilà. Alors en Bretagne, le sarrasin est arrivé au Moyen-Âge, donc on situe ça aux alentours du XIIIe ou XIVe siècle, et pendant 300 ans, c'est devenu l'aliment principal de la population, puisqu'il n'y avait pas d'autres farines assez répandues à l'époque. Et pourquoi la Bretagne ? Parce que le climat breton et le sarrasin font bon ménage, la plante de sarrasin n'aime pas la chaleur, elle adore l'humidité, donc quand il pleut, elle est contente, elle est ravie quoi. Et donc voilà comment aujourd'hui cette petite plante d'Asie qui fleurit toujours en Bretagne nous permet de manger des galettes et c'est aussi devenu notre spécialité régionale.
Et je sais aussi qu'il y a une très bonne recette, puisque toi Anso tu cuisines énormément, en plus tu dois le savoir, c'est faire germer des graines de sarrasin.
Exactement, on peut les manger en salade aussi.
C'est ouais. Hyper bon, vraiment ouais. Super bon.
Alors j'ai jamais testé mais j'en ai entendu que du bon. Ouais ouais.
Thank you.
C'était le morceau du groupe FM Belfast et le titre c'est Underwear. En fait, on s'était demandé avec les filles quelle sorte de musique on écoutait quand on faisait la cuisine justement. Et en fait, moi j'ai pensé à celle-ci parce que je la trouve assez punchy. Voilà. Alors en rantaine, comme on dit, quand on écoute de la musique et qu'à côté on discute, eh bien on parlait justement donc des galettes et de ce qu'on avait appris avec Anso. Et on se demandait justement... est-ce que effectivement on sait qu'il y a énormément donc de farines de sarrasin qui sont cultivées en Chine et qui sont donc importées en Bretagne et en France pour faire des galettes, mais est-ce qu'il existe encore des champs de sarrasin en Bretagne ?
Alors oui, il en existe encore. Je crois avoir lu le nombre de 4000 hectares aujourd'hui de champs cultivés de plantes de sarrasin. Alors ça peut paraître énorme, mais en fait c'est beaucoup moins qu'avant, puisque jusque dans les années 60, on avait un peu plus de 150 000 hectares.
Ok. Ah ouais, donc une grosse perte quand même.
Voilà, grosse perte, ouais. Alors, je sais pas encore à quoi c'est dû, ça peut être intéressant d'aller chercher, puisque ce qui est étonnant, c'est quand même une farine qu'on consomme énormément, mais il y a d'autres farines qui se sont répandues, on utilise plus largement et dans toute notre alimentation la farine de blé qu'on utilise pour faire des crêpes du coup. Et puis il y a plein d'autres farines après qui sont arrivées. Aujourd'hui on trouve du pain à la farine de châtaigne, de maïs, enfin voilà, il y a plein d'autres farines qui existent, mais beaucoup moins de surface cultivée aujourd'hui.
Et ce que tu nous disais aussi, mine de rien, c'est que pour ceux qui sont attentifs à leur alimentation et à ce que comportent les aliments qu'ils consomment, le sarrasin ne supporte pas beaucoup les produits chimiques.
Oui, exactement. C'est une plante qui souffre énormément quand on lui met des produits pas naturels dessus, qui supporte pas, qui est très peu, qui est pas solide, voilà, pour encaisser ça. Donc en fait, c'est une plante qui est très productive, mais au naturel. Donc elle est assez prisée dans toutes les cultures biologiques et un peu plus respectueuse de l'environnement.
Et le plus aussi, tu disais, justement, encore pour les personnes qui sont sensibles à leur alimentation, c'est que la farine de sarrasin ne contient pas de gluten.
Alors voilà, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont soit allergiques, donc qui ne supportent pas du tout, ou qui choisissent pour une question de bien-être de ne plus manger de gluten. Et c'est vrai que ce qui est bien avec les galettes, c'est qu'il n'y en a pas. Donc ça peut remplacer le pain, c'est une base dans laquelle on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. On peut imaginer plein de choses, on peut être assez créatif avec des galettes. Et du coup, effectivement, ça permet d'avoir une alimentation sans gluten.
Puisqu'on parle là de créativité avec les galettes, effectivement, je pense qu'on a tous été déjà en face à une galette. Alors bon, il y a des galettes qui sont assez connues par chez nous, qui sont par exemple les galettes saucisses ou les galettes fromage. Mais vous, est-ce que vous avez une petite recette de galettes un peu particulière que vous aimez bien, soit avec une sauce ou un légume qu'on retrouve pas souvent dans une galette, autre chose qu'une galette complète?
Eh bien oui, j'ai goûté il y a pas longtemps une galette gratinée au four avec du chèvre et des épinards, et j'ai trouvé ça hyper bon. Voilà.
Et du coup, gratinée au four,
elles sont roulées, donc on met les aliments à l'intérieur, elles sont roulées, on les met dans un petit plat avec un petit peu de fromage par-dessus, et puis on laisse gratiner un petit quart d'heure, et puis c'est bon.
Moi, j'aime beaucoup celle au saumon. Mais en fait, vu que je viens de Normandie, nous, enfin, en Normandie, on utilise beaucoup les crêpes, et même les crêpes avec des aliments salés.
Oui, comme les crêpes au jambon, par exemple.
Voilà, les crêpes au jambon, et moi j'adore la crêpe au saumon chèvre.
Moi j'avais fait une fois des lasagnes, pour remplacer les pâtes, des galettes de sarrasin, justement. Après, honnêtement, c'était pas une totale réussite, parce que entre la crème de, enfin la galette de sarrasin plus la béchamel de sarrasin et je sais plus ce qu'on avait mis d'autre dedans, ça faisait un peu too much sarrasin. Mais c'est vrai que mine de rien, c'est une bonne idée aussi pour utiliser les galettes autrement.
Alors, il y a une autre manière aussi de consommer le sarrasin dont on n'a pas parlé, que les adultes connaissent peut-être mieux que les enfants d'ailleurs, et qui est aussi sans gluten du coup, c'est la bière. Puisqu'il y a de plus en plus de bières en fait faites à la farine de sarrasin, et en Bretagne, on a, pour la plus connue, il doit en exister d'autres, on a la Telendu, qui est fabriquée dans le Morbihan, voilà.
C'est vrai que ça, c'est une bonne information, parce que pour ceux qui boivent de la bière et qui ne supportent pas le gluten, généralement, c'est un peu la croix et la bannière pour pouvoir trinquer à l'apéro. Mais ça, effectivement, ça ne vous concerne pas encore. Eh bien, merci beaucoup, Anso. Je pense qu'on a fait à peu près le tour général du sarrasin peut-être qu'on explorera d'autres farines une prochaine fois. C'est vrai qu'il en existe de plus en plus. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de farines qui existaient. On en voit fleurir sur les marchés des pains de toutes sortes de compositions. Et il doit y avoir des apports nutritifs assez intéressants. Je ne sais pas, toi, pour le sarrasin, si tu sais quel apport...
Alors non, je ne sais pas. Ça fait des pains assez étranges. D'ailleurs, c'est des pains assez compacts qui ne lèvent pas, du coup, qu'il faut plutôt griller pour manger. C'est très bon, mais en termes d'apport nutritif, je ne suis pas renseignée là-dessus.
Bon, à part de manger ça après le sport ou avant une bonne balade en vélo pour bien remplir le vide, voilà, on n'en dira pas plus aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup les filles. On se retrouve la semaine prochaine dans Mercredi. Il commence à faire beau, il faut en profiter. Maintenant, c'est le temps de sortir et de courir dehors. Amusez-vous bien.
Salut. Merci.
Bonne journée.
Mercredi. 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 Mercredi.